Le gang des hystériques.
Le gang.
Bim.
La question est que les femmes veulent se prendre en main elles-mêmes.
Justement des femmes noires dans leur pluralité, dans leur complexité aussi.
La plupart d'entre vous le sentent.
Attendez-vous.
Ils savent qu'on ne peut empêcher les avortements en clandestin.
Bonjour à toutes, à tous et aux autres et bienvenue sur Le Gang des Hystéries, émission mensuelle que vous pouvez écouter sur PFM et retrouver en podcast sur le site de Micro Rebelle. Aujourd'hui, je suis avec Sarah.
Bonjour tout le monde.
Et une petite nouvelle qui débute à la radio, Olivia.
Bonjour.
Pour l'émission d'aujourd'hui, nous allons parler d'une polémique qui est courante et que Sarah et moi connaissons bien, c'est l'écriture inclusive.
Ou l'écriture, ou le langage polysème.
Oui, on...
Épicène, pardon. Je ne sais pas pourquoi polysème, épicène.
Bah, c'est ça, de suite, ne plus avoir les notes sous les yeux, bah, on dit des bêtises, hein. Voilà. Forcément, forcément. Avant tout ça, on va pas vous faire un agenda culturel comme on a l'habitude de faire, mais on va vous faire un petit point cul, tout simplement parce que j'étais en train de lire ce matin même, pendant un petit moment qui s'appelle « Silence, on lit » à l'école, où tout le monde, même les professeurs, prend un bouquin pendant une quinzaine de minutes. Je lisais un passage d'Amélie Nothomb, qui s'appelle, dans le livre qui s'appelle « Le sabotage amoureux », où elle raconte son arrivée de 72 à 75 en Chine, alors que les années précédentes, elle était à Pékin. Elle est toute jeune, elle a encore que 7 ans. Et elle est dans une sorte de ghetto où sont regroupés tous les Européens ou tous les étrangers qui viennent travailler à Pékin. La plupart sont des ambassadeurs. Et quand elle observe un peu le monde qui l'entoure, et là, je la cite. Donc, elle dit « Jusqu'à mes 14 ans, j'ai divisé l'humanité en 3 catégories, les femmes, les petites filles et les ridicules. Toutes les autres différences me paraissaient anecdotiques. Riches ou pauvres, chinois ou brésiliens, les Allemands mis à part, maîtres ou esclaves, beaux ou laids, adultes ou vieux. Ces distinctions-là étaient certes importantes, mais n'affectaient pas l'essence des individus. Les femmes étaient des gens indispensables. Elles préparaient à manger, elles habillaient les enfants, elles leur apprenaient à lacer leurs souliers, elles nettoyaient, elles construisaient des bébés avec leur ventre, elles portaient des vêtements intéressants. Les ridicules ne servaient à rien. Le matin, les gens ridicules partaient au « entre guillemets bureau » qui était une école pour adultes, c'est-à-dire un endroit inutile. Le soir, ils voyaient leurs amis, activité peu honorable dont j'ai parlé plus haut. En fait, les ridicules adultes étaient restés très semblables aux ridicules enfants, à cette différence non négligeable qu'ils avaient perdu leur trésor de l'enfance. Mais leur fonction ne changeait guère et leur physique non plus. En revanche, il y avait une immense différence entre les femmes et les petites filles. D'abord, elles n'étaient pas du même sexe. Un seul regard suffisait pour le comprendre. Et puis, leur rôle changeait énormément avec l'âge. Elle passait de l'inutilité de l'enfance à l'utilité primordiale des femmes, tandis que les ridicules demeuraient inutiles toute leur vie. Les seuls ridicules adultes qui servaient à quelque chose étaient ceux qui imitaient les femmes, les cuisiniers, les vendeurs, les professeurs, les médecins et les ouvriers. Car ces métiers étaient d'abord féminins, surtout le dernier. Sur les innombrables affiches de propagande qui jalonnaient la cité des ventilateurs, les ouvriers ne manquaient jamais d'être des ouvrières, joufflues et joyeuses. Elles réparaient des pylônes avec tant de bonheur qu'elles en avaient le teint rose. La campagne confirmait les vérités de la ville. Les panneaux ne montraient que des agricultrices, enjouées et braves, qui récoltaient des gerbes avec extase. Les ridicules adultes servaient surtout au métier de simulation. Ainsi, les soldats chinois qui entouraient le ghetto faisaient semblant d'être dangereux mais ne tuaient personne. J'avais de la sympathie pour les ridicules, d'autant que je trouvais leur sort tragique. Ils naissaient ridicules. Ils naissaient avec, entre les jambes, cette chose grotesque dont ils étaient pathétiquement fiers, ce qui les rendait encore plus ridicules. Souvent, les ridicules enfants me montraient cet objet, ce qui avait pour effet immanquable de me faire rire aux larmes. Cette réaction les laissait perplexes.
C'est génial.
Exactement. On se dit, c'est juste génial, en sachant que le livre date, je crois, de début 90, si je ne dis pas de bêtises. Donc déjà, à cette époque, en sachant que c'est une vraie fausse biographie, bien sûr, je trouvais que ça allait bien avec le contexte dont on allait parler aujourd'hui. Donc, je me suis permis cette petite lecture. Donc, pour rappel, c'est Amélie Nothomb, Le sabotage amoureux.
C'est super. Bah, merci pour cette petite lecture qui donne envie, du coup, de relire le livre aussi.
Mais de rien.
Donc oui, du coup, on va enchaîner sur, sur un sujet qui fait polémique, justement, aujourd'hui. L'écriture inclusive ou bien le langage épicène. Alors, on va consacrer cette émission à ce sujet avec donc Olivia et toi, Florian. Et on va commencer dans un premier temps par expliquer c'est quoi l'écriture inclusive. Et donc, Florian, tu vas nous présenter un petit peu de quoi il s'agit, sachant qu'à la base, c'est pour se libérer justement des stéréotypes de genre.
Exactement. Alors, ce que dont je vais parler ici, vous allez sûrement le redire parce que je pense que c'est des choses qui sont redondantes. Je suis obligé d'avoir 3 pages internet différentes parce que chaque page parle de caractères grammaticaux différents sur l'écriture inclusive. Mais l'écriture inclusive est née de la volonté de faire changer les mentalités sur l'égalité femmes-hommes par le langage. Donc, on sait que normalement, c'est le masculin dans le langage français actuel qui prend le dessus sur le féminin, même quand il y a des effets de groupe. Et on voit que là, par l'écriture inclusive, pas du tout. Donc, il y a différentes règles. Tout d'abord, si on doit citer des hommes et des femmes à quantité égale, il faut mettre le féminin en d'abord. Donc, par exemple, au lieu de dire « ils font du cinéma », il faut dire « elles et ils font du cinéma ». On a aussi le fameux point médian, vous savez, le petit point qui est en plein milieu qu'on cherche toujours quand on veut taper un message sur ordinateur. Par exemple, quand on veut dire que donc là, il me donne des exemples. Pour des chefs, s'il y a des chefs masculins et des chefs féminins, les chefs seront marqués chef.fe. S qui veut dire qu'on a des chefs masculins et des chefs féminins. Donc l'utilisation de ce point milieu ou médian et éviter d'utiliser les majuscules de prestige à homme et à femme. Et l'exemple qui est donné, c'est par exemple parler des droits humains au lieu de parler des droits des hommes et des droits des femmes. Comme ça, au moins, ça permet de faire quelque chose de beaucoup plus neutre sans forcément donner l'avantage à l'un et à l'autre. Et il y a d'autres exemples aussi qui sont cités, comme par exemple la féminisation des noms de métiers.
Faudrait nous expliquer vite fait sur le genre non-binaire ?
Oui, pardon. Alors, pour les personnes qui ne sont pas au point avec ça, la non-binarité, ce sont des personnes qui ne se situent ni dans le genre masculin, ni dans le genre féminin. Donc, ces personnes-là, parfois, elles vont vous dire « Ben non, il ne faut pas que tu me genres il ou que tu me genres elle, il faut que tu me genres autrement. » Alors déjà, on se dit « Ben autrement, ça va être quoi ? Ça va être un petit peu compliqué. » Mais en fait, pas du tout. Il faut demander à ces personnes déjà quel est le pronom qu'ils utilisent pour eux-mêmes. Le plus utilisé, même si maintenant il y a toute une gamme, c'est le « il », I-E-L. C'est tout simplement un mix entre « il » et « elle » et c'est ce qui permet d'avoir un genre neutre. C'est ni masculin ni féminin. Après, ces fameuses écritures, comme je vous ai dit, qui peuvent différer, pour qu'il y ait de la non-binarité, parfois, les personnes non-binaires rajoutent un X. Le X, en fait, c'est juste pour dire, ben, ce n'est ni au masculin ni au féminin, c'est encore autre chose. Donc, effectivement, dans la structure grammaticale, pour les personnes non-binaires, il y a ce point supplémentaire de rajouter un X pour ne pas mettre de E ou rien du tout.
C'est intéressant quand même de savoir de quoi on parle pour justement par la suite, donc on verra plus tard en quoi toutes ces petites choses qui permettent de différencier hommes, femmes, enfin bref, de faire quelque chose d'inclusif, pose question pour un certain nombre de personnes. Mais du coup, oui, effectivement, Olivia, tu vas nous parler un petit peu de cet historique, sachant qu'évidemment, c'est plutôt récent cette masculinisation. Voilà, qui s'est faite du coup à partir d'un ou deux siècles finalement.
Alors, un petit peu plus que ça quand même. Alors en fait, pour resituer un petit peu, ce matin, j'ai entendu une émission sur France Inter, un peu par hasard, je ne savais pas du tout que c'était le thème. Et le thème de cette émission, donc, c'était « Grand bien vous fasse ». Et le thème, donc, c'était l'écriture inclusive et la féminisation des mots.
Et si vous êtes intéressé, on vous mettra les liens sur Micro Rebelle si vous voulez réécouter le podcast.
Ouais. Franchement, ça vaut le coup parce que c'est une émission d'habitude que j'écoute pas spécialement. Mais bon, là, sachant qu'en plus, on allait en parler l'après-midi même, j'ai tendu l'oreille. Et en fait, finalement, ce que j'ai appris, c'est que la féminisation des mots, en particulier celle des mots du travail et des fonctions sociales, ça a toujours existé. Et en particulier au Moyen Âge, toutes les fonctions comme du travail, par exemple tisserand, il y avait les tisserandes, les vendeurs, il y avait les vendresses, les clercs, il y avait les clergeresses, et tout ça, ça passait, ça faisait partie du langage courant. Donc voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que il y a eu un changement sociétal. En fait, ça a commencé avec le siècle des Lumières, dit des Lumières, parce que ça n'a pas apporté de la lumière pour tout le monde. Et dans cette émission, on entendait Benoît de Groot, qui est donc écrivaine. Dans les années 80, elle était interviewée et elle disait qu'elle voulait être appelée écrivaine. Et on lui disait, mais est-ce que vous ne pensez pas que c'est un peu... est-ce que vous pensez que l'humanité a besoin de ce genre de combat ? Et elle disait que, oui, c'était essentiel, par exemple. Et donc, elle parlait du Moyen-Âge, elle parlait de ces noms-là. Et elle disait qu'aujourd'hui, les mots du métier et des fonctions sociales, ils étaient restés féminisés quand il s'agissait de professions dites « normales », entre guillemets, comme agricultrice, où ça choque personne. Et que tout ce qui relevait de professions ou de fonctions sociales comme écrivain, par exemple, que écrivaine, comme par hasard, ça faisait saigner des oreilles, alors que agricultrice, pas du tout.
Et c'est un choix qui s'est fait par qui, en fait ?
Alors, en fait, c'est là où c'est intéressant, parce qu'en fait, le début de l'invisibilisation des femmes qui arrive en fait, alors je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais en gros avec l'arrivée du système capitaliste après le Moyen-Âge, où en fait les femmes se sont retrouvées dans les maisons pour produire de la main-d'œuvre, prendre soin de la main-d'œuvre et faire un travail non payé, ça coïncide avec l'invisibilisation du langage, des mots féminins dans le langage. Et notamment avec la création de l'Académie française, la fameuse, en 1634, dont le but est, et là je cite, c'est écrit tel quel, de purifier la langue. Voilà.
C'est si joliment dit, dis donc.
Ouais, puis ça évoque plein de choses, plein d'épisodes. Ouais,
en lien avec la religion, du coup,
ouais,
aussi.
Carrément. Et donc voilà, en fait, on est arrivé à... cette espèce de boys club géant qui est l'Académie française. Et d'un seul coup... Alors, effectivement, j'ai entendu quelque chose aussi d'intéressant, c'est-à-dire que ces mots qui sont considérés comme pas agréables à entendre, comme autrice, écrivaine, etc., ils correspondent aussi à des fonctions sociales qui sont majoritairement prises par les hommes. Les dirigeants au pouvoir, les chefs d'entreprise, les chefs de... Enfin, etc. Donc, tout ça, ça fait sens aussi.
Moi, j'ai capté, donc en faisant des recherches, une citation qui m'a un peu fait mal aux yeux d'un grammairien, Nicolas Bozé, qui était grammairien donc, au XVIIIe siècle, donc après la création de l'Académie française, qui dit donc « Le genre masculin est réputé plus noble que le féminin à cause de la supériorité du mâle sur la femelle. » Donc voilà, je pense que le ton est donné. C'est vraiment par rapport à une question de supériorité que du coup on a voulu vraiment invisibiliser le féminin.
Et on en revient à des questions biologiques et animales. Enfin, et surtout que quand, dans le monde animal, quand on regarde, chez les lions, c'est pas les lions, c'est les lions qui tiennent le groupe. Si les lions, ils sont là à rêvasser, à prendre la nourriture quand les lions ont chassé, et puis c'est tout, et à reproduire.
Ah, on est complètement exactement dans un langage humano-centré qui dit que effectivement le mâle est plus fort et plus c'est lui qui est en charge. Et voilà.
Et c'est fou de voir que cette affirmation là qui date du coup du XVIIIe siècle trouve écho à notre époque dans toujours l'Académie française où là du coup donc Olivia, c'est toi qui me disais ça, que Maurice Druon, qui du coup accueillait aussi là une conférencière.
C'était une universitaire en fait, qui s'est présentée à lui en disant « je suis maîtresse de cérémonie ».
Et là, du coup, Maurice Druon a répondu « cérémonie a bien de la chance ».
Voilà, ce qui est vraiment le comble de la misogynie. Enfin, Druon, d'après ce que j'ai entendu, aujourd'hui, il était quand même... au niveau de la misogynie, il a un certain bagage.
Ouais.
Et juste pour terminer sur le point historique, il y a quand même une reféminisation de la langue qui est en marche, si j'ose dire. Et en fait, ça part, comme beaucoup de combats politiques féministes, ça vient du Québec, depuis les années 70. Et ça arrive sur le continent européen par la Belgique, comme tu me disais tout à l'heure, Sarah.
Ouais. Oui,
voilà.
Ou du coup, effectivement, en Belgique, cette écriture inclusive n'est pas aussi mal vue que chez nous actuellement. Enfin, même au contraire, c'est plutôt favorable à l'écriture inclusive. Donc, comme au Québec et aussi, comme tu vas le dire, en Suisse, je crois.
Oui, alors ça, je n'ai pas de détails. Mais effectivement, il parlait aussi de la Suisse. En fait, ce que ça disait aussi dans l'émission, c'était que c'est marrant comme ça, marrant entre guillemets, comme ça contourne la France. Mais en tout cas, il n'y a qu'en France que ça cristallise autant de, entre guillemets, passion.
C'est comme le nuage de Tchernobyl, ça s'arrête aux frontières.
Oh ouais. Oui, voilà, c'est ça. C'est exactement ça.
Ouais, c'est quand même étonnant de voir que on est toujours aussi réfractaire au progrès.
C'est exactement ça. Ouais. C'est aberrant de bêtises. Et comme tu disais, c'est que là, on est 15e, 16e, 17e, on va dire, grand maximum au niveau des dates, où on a cette masculinisation au final. Et que là, au 21e siècle, on est toujours à se dire « Mais est-ce que la place des femmes est aussi importante qu'auparavant ?» Alors qu'au Moyen-Âge, et ça, c'est toi, Sarah, qui disais, on pensait que le Moyen-Âge, c'était une période qui était régressive, vraiment très bas et tout ça, alors qu'à l'époque, ils avaient les doubles noms, masculin, féminin, etc. Donc là aussi, on se dit « Enfin, c'est... On dirait que c'est le monde. C'est que nous, on régresse aujourd'hui par rapport à ce qu'il y avait auparavant.
Oui, parce que du coup, jusqu'au XVIIe siècle, il y avait les accords qui se faisaient en fonction de la majorité dans la phrase. Donc, par exemple, on va dire les femmes et un tel sont partis. Là, on va accorder au féminin. Il y a les accords de proximité et l'accord de choix. Donc là, on va faire un choix entre le masculin et le féminin en fonction de l'importance du personnage, quoi.
Et la proximité, c'était... Enfin, moi, en tout cas, c'est la règle qu'on m'avait dit qui était le plus utilisée. Par exemple, si on dit le directeur et les associés féminins, donc EES, sont partis, et ben partie prendra le féminin parce que c'est les associées féminines qui sont le plus proche du verbe et donc c'est pas l'homme qui prend alors qu'il est tout seul qui prend le dessus.
Oui.
Donc, mais ça, cette règle là, elle est quand même, on en reparle beaucoup parce qu'on réutilise l'écriture inclusive et que.
Oui, parce que l'écriture inclusive, aujourd'hui, elle est très utilisée, en tout cas sur les réseaux sociaux, par toutes les personnes qui sont militantes. Pour l'inclusion de tous. Et du coup, à partir de là, vu que c'est de plus en plus utilisé, va falloir effectivement que l'État et le gouvernement se positionnent. Et c'est justement ce qui se passe aujourd'hui, avec du coup une prise de position, notamment par le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, qui a du coup pris parti Pas pour le meilleur. Dans le BO du 6 mai, il est dit que, du coup, on va refuser l'écriture inclusive à l'exception des fonctions tenues par une femme qui, là, doit être systématiquement féminisée suivant les règles énoncées par le guide d'aide à la féminisation des noms de métiers, titres, grades et fonctions élaborés par le CNRS et l'Institut national de la langue française qui, là, s'intitule « Femme, j'écris ton nom » et qui date de 1999 et qui, donc, du coup, dresse une liste de tous les métiers à la fois masculins et féminins. Donc, on va refuser, selon ce bulletin officiel, l'écriture inclusive à l'exception donc, de la féminisation des métiers, en fait, en gros. Et donc là, on va refuser justement ce dont on parlait au début, donc le point médian et tous les accords qui peuvent être justement de proximité, de majorité ou bien encore les accords de choix pour des raisons qui sont que, a priori, appliquer l'écriture inclusive auprès des enfants, leur apprendre cette écriture inclusive, compliquerait en fait l'apprentissage de la lecture, de la lecture, et donc pour ces pauvres petits-enfants donc, qui, dès le CP, apprennent effectivement les lettres de l'alphabet et... donc les lettres et les mots, donc pour certains, ce serait trop compliqué, et notamment pour les élèves qui seraient dyslexiques.
Voilà. Donc la dyslexie, juste pour rappel, c'est les personnes qui, par exemple, en lisant un B, vont lire un D parce que les deux lettres se ressemblant, ils n'arrivent pas, leur cerveau n'arrive pas à faire la différence entre ces deux lettres-là, donc ils n'arrivent pas à lire correctement les mots qui leur sont présentés.
Et ce qui est intéressant, c'est que en fait, on peut se poser la question, sur quoi se base ce jugement ? Est-ce qu'il y a eu des études qui ont été faites par rapport à ça ? Je ne crois pas. Je pense que c'est tout à fait arbitraire le choix qui a été fait. Vous pourrez lire sur le site internet Le Café Pédagogique une interview qui a été réalisée auprès de Célia Guerrieri, qui est professeure et elle-même dyslexique. Et donc, elle enseigne à des élèves dyslexiques et elle-même dit que la question de l'écriture inclusive ne se posera pas de toute manière avant l'entrée au collège. Toute l'école primaire, de toute manière, ce sera plutôt effectivement un apprentissage. Et donc, évidemment, tout ce qui est complexe, on ne va pas le mettre à disposition des enfants. On veut déjà leur apprendre les bases et ensuite, effectivement, peuvent arriver les complexités. Et elle, en fait, elle s'est déjà permise avant cette loi, avant ce bulletin officiel, d'appliquer l'écriture inclusive auprès de ses élèves avec justement le point médian. Et en fait, elle s'est rendue compte que ses élèves, l'écriture inclusive avec le point médian ne posait pas trop de problèmes. Ils arriveraient à lire, ils arrivaient à comprendre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle dit qu'en fait, les réelles difficultés pour ces élèves-là, c'est plutôt la lecture de consignes qui n'est pas adaptée à ces élèves, en fait. Et du coup, j'ai trouvé ça intéressant de voir le point de vue d'une personne qui est directement confrontée à la dyslexie. Enfin, c'est voilà. Donc, je vous conseille d'aller lire son interview sur le café pédagogique.
On mettra les liens sur Micro Rebelle. À la fin de l'émission, vous retrouverez l'émission sur Micro Rebelle si vous voulez écouter donc les deux podcasts qu'on a cités. Et pour revenir sur cette histoire-là, moi, je sais que en tant que professeur. Je le rappelle, hein, même si quasiment à toutes les émissions, je pense que je le dis. Mais en tant que professeur, j'essaye de l'appliquer. Alors, pas à l'écrit, parce que en bio, on n'écrit pas forcément. Il n'y a pas forcément de tournure de phrase où je vais mettre le point médian et mes pauvres sixièmes qui arrivent à peine, qui vont me dire « Mais monsieur, c'est quoi ce point en plein milieu du mot ? Je ne veux pas les perturber avec ça. » Mais je le fais déjà via l'oral. Quand je donne des consignes ou quand j'explique des choses, etc., je dis celles et ceux qui ont fini, vous pouvez commencer à faire ça, par exemple. Donc, j'essaye quand même de l'appliquer à l'oral. Alors, je ne sais pas si ils entendent vraiment qu'il y a une différence ou quoi, mais j'essaye de le mettre au moins à l'oral parce que je trouve qu'à l'écrit, pour certains élèves, ça serait un peu trop compliqué parce qu'ils n'ont pas eu les bases comme tu expliquais au primaire. Mais déjà, à l'oral, je pense que ça fait déjà une autre écoute. Et Sarah, tu peux le dire parce que tu as eu un groupe de filles en charge au collège. Je pense que les filles sont assez impliquées sur le fait d'avoir leur place, surtout dans certains groupes.
Oui, c'est sûr. Et puis, en fait, c'est vrai que le langage traduit une réalité et du coup, rester dans l'invisibilisation du coup du féminin, c'est aussi invisibiliser une partie de la population malgré tout, parce que c'est le langage qui crée la réalité du monde. C'est à travers l'écrit, enfin, voilà. Donc on peut se poser la question des réels arguments que nous soumettent du coup ces politiques-là qui sont contre l'écriture inclusive, parce que c'est quand même assez fou quand on va voir sur Internet le nombre d'articles qui paraît pour défendre du coup cette écriture non inclusive. Pourquoi à part là du coup défendre quelque chose qui a été mis en place par clairement un groupe misogyne, enfin je ne sais pas.
Et Olivia, t'avais cité, enfin on va pas les citer là, mais vous avez sûrement en tête quel groupe de personnes ont commencé à susciter la polémique au sein de nos politiques.
Oui, ils ont certainement en tête.
Quel côté de l'hémisphère politique s'était emparé de tout ça, mais je pense que les gens derrière le micro, ça... droite. Pardon.
Mais oui, effectivement, c'est le gros dada du Figaro en fait en ce moment.
Ouais.
Vraiment, il y a l'écriture inclusive, c'est passion écriture inclusive.
Super, c'est génial, on adore.
Et comme tu le disais avant aussi, Olivia, c'est que un des arguments qui est évoqué pour s'opposer à l'écriture inclusive, c'est de dire, mais en fait, c'est pas un débat qui devrait exister, quoi. C'est un faux débat.
C'est ça. Et en fait, c'est là où j'en reviens à Benoît de Groulx dans les années 80, à qui on reprochait de dire. Ah, tu veux qu'on dise écrivaine, mais t'as pas autre chose à faire. Franchement, il y a d'autres combats, mais on en est toujours là à entendre. Mais t'as pas d'autres combats où tu desserres la cause. Enfin, là, je vais peut-être un peu. C'est peut-être pas exactement ce qu'on entend sur la question du langage, mais c'est vraiment en ces temps vraiment des histoires de mettre un point médian et faire attention à ce que le féminin soit aussi visible que le masculin. C'est vraiment ça.
Par contre, bizarrement, voilà. On dirait ça à Blanquer, il dirait la même chose, quoi, parce que là, il s'insurge de ça, alors qu'en pleine pandémie, il y a quand même un peu d'autres éléments.
Entre toutes les incohérences du protocole sanitaire dans l'établissement scolaire, tous les cafouillages autour des distributions des tests.
Et le Premier ministre qui, tout récemment, a avoué que oui, il aurait fallu fermer les écoles, mais pourquoi ils ne l'ont-ils pas fait plus tôt? Enfin, on est vraiment dans un gros n'importe quoi.
Mais oui, exactement. Et puis aussi, tout à coup, Blanquer qui tout à coup se souvient qu'il y a des élèves dyslexique, alors que la sonnette d'alarme est tirée en permanence sur le manque d'AVS, voire l'absence d'AVS sur les dossiers qui sont interminables à monter, etc., de la part des parents.
Peu de place aussi en structure spécialisée. Quand on voit le nombre de gamins, nous, cette année, en sixième, on a une flopée d'élèves à besoins particuliers où la moitié devrait être en structure et ils n'ont pas de place. Donc, ils se retrouvent en classe normale des classes où ils sont 25, 27 et où il y a entre 3 et 5 élèves à besoins particuliers pour une AVS. Donc, pour une aide, c'est énorme, c'est catastrophique.
Bah ouais, mais toi, avec ton point médian,
je vais me le mettre.
Tu vas tout ruiner, quoi.
Un des autres arguments, c'est de dire oui, mais moi, du coup, quand je suis en train de lire et qu'il y a ces points, ces E partout, ça me déconcentre et du coup, ça me coupe dans mon élan de lecture. Ben, en fait, je pense que c'est juste une habitude, quoi. C'est comme tout. Et du coup, effectivement, quand on n'est pas habitué et qu'il faut se lancer dans une lecture un peu plus descriptive, en tout cas sur l'inclusivité, peut-être que ça demande au départ effectivement une certaine concentration supplémentaire, mais au final, la lecture, à la base, c'est un apprentissage, et je pense que c'est aussi un apprentissage, l'écriture inclusive, tout comme le fait de parler de façon inclusive.
C'est une logique à acquérir. Voilà. Parce que c'est de comprendre que quand tu as ton point, tu sais que c'est masculin, féminin, point. Moi, maintenant, je le lis comme ça. C'est limite, je lis le début du mot, je comprends que le début du mot, ça veut dire ça. Et les points, je les zappe et je passe à la suite. Parce que le début du mot, je vais comprendre que c'est en référence à tel corps de métier ou à tel groupe qu'on veut signaler. Et puis, c'est tout. Donc, c'est vraiment de l'apprentissage.
Et très récemment, j'ai lu mes premiers romans écrits avec l'écriture inclusive, avec des points médians. Donc, c'est aux éditions Cambourakis, notamment. Et franchement, ouais, très vite, je les voyais plus. Enfin, c'est complètement intégré dans le processus de lecture. Et je suis aussi bien plongée dans le roman que s'il n'y avait pas cette écriture-là. Quoi.
Tout en modifiant, malgré tout, au fond de toi, je pense, une certaine représentation du monde.
Oui.
Puisque du coup, puisqu'on féminise les mots, enfin qu'on accorde la place qui doit être faite aussi au féminin, le monde reprend un peu plus de couleur, j'ai envie de dire.
Oui, et tu as raison de préciser que c'est on accorde la place. Et plus que féminiser les mots, c'est juste dire on existe autant. Enfin voilà, on est visible ici et là. Et oui, c'est masculin, féminin, neutre, non-genré, tout ça. Donc,
et c'est un petit pas aussi pour modifier nos représentations inconscientes de la société, quoi. Voilà.
Et c'est pour ça que c'est fondamental, en fait, que c'est pas du tout un mini combat ou un point de détail.
Et comme tu dis, que ce soit à l'écrit ou à l'oral, c'est du travail au début, et puis après ça devient un automatisme de juste de dire il et de dire elle et il. Au fur et à mesure, on va prendre le coup et ça va devenir un automatisme. Enfin, si vous faites bien attention depuis le début qu'on fait l'émission, quand c'était Louise qui en tout début gérait ça, moi j'ai repris sa présentation et on dit toujours bonjour à toutes, à tous et aux autres. Donc on signale bien le féminin, le masculin et ceux qui ne se considéreraient ni dans l'un ni dans l'autre. Donc c'est vraiment une habitude à prendre. Et puis voilà, quoi, moi je trouve que c'est joli.
En tout cas, ces prises de position violentes contre l'écriture inclusive, c'est quand même intéressant sociologiquement, on peut dire. On verra comment ça se passera dans quelques années, parce qu'il y en a certains qui sont pratiquement convaincus que l'écriture inclusive va disparaître comme elle est apparue. Alors qu'en fait, ils ne connaissent pas leur histoire, puisque en fait, l'écriture inclusive, c'est pas nouveau, puisque tu nous l'as dit, Olivia, tout à l'heure. Et ça serait intéressant, enfin voilà, on parle de backlash, de dire... de boomerang qui nous reviendrait, nous, en plein visage, les mouvements féministes. Eh ben non, on va continuer, en fait. Donc,
Et c'est surtout que là, on parle de la politique parce que c'est le ministre de l'Enseignement qui en parle. Mais cette politique a éclaté déjà l'année dernière, peu de temps après les municipales, où la mairie de Lyon étant passée vert, a décidé, alors en plus d'une polémique sur la présence ou pas de viande dans les cantines scolaires, sur l'écriture inclusive et qui a été votée par la mairie de Lyon et que les groupes droite sont vite montés au credo en disant mais c'est illisible, les personnes n'y arriveront pas. Ils ont même fait témoigner une représentante de l'association. Alors après, je ne passe pas... je suis pas à la place des personnes handicapées, mais il y a un témoignage sur Le Figaro, un article du Figaro qui disait que les personnes en situation de handicap ne comprenaient pas les prospectus venant de la mairie à cause de cette écriture inclusive. Donc ça serait bien aussi. Alors on a parlé des dyslexiques. Après avoir pour d'autres personnes, est-ce que c'est le même cas? Est-ce que c'est vraiment gênant ou pas pour ces personnes-là aussi? Mais ça a fait à chaque fois qu'on parle de ça, il y a toujours des réactionnaires.
Oui, j'ai envie de citer par exemple Marlène Schiappa, notre chère ministre déléguée aux droits des femmes, qui a dit un jour dans le magazine Slate « Quand on est féministe, on est forcément énervé, pas épilé et pour le point médian.
» Elle nous en fait une bonne de féministe, elle a dit donc.
On peut peut-être écouter un petit peu de musique.
On va s'écouter la musique et moi ce que je vous propose, c'est que de suite après la musique, on enchaîne avec une chronique badass de Lily qu'elle nous avait fait il y a quelques temps sur Lilith et qui revient exactement sur la place faite aux femmes. Donc on écoute tout ça et on se retrouve de suite après. À tout à l'heure.
Sur tous mes amants, La chronique badass.
Get away from her, you bitch!
Réveillez-vous, les filles! On va laisser les hommes sauver l'univers?
Dodge this.
C'est toujours rapide.
Ce jingle. Hein, qu'est-ce que t'en penses, Marin? C'est la première fois que tu l'entendais.
C'est pas mal.
Ouais. Donc voilà, on l'adore, hein, ce jingle. D'ailleurs, on remercie Luc du Micro Rebelle, hein, pour la technique et la création de ce jingle. Et aujourd'hui, là, dans la chronique badass, on le rappelle, hein, cette chronique, elle a pour principe de mettre en avant le parcours, la vie d'une femme que nous, on va dire, badass, donc, qui a été invisibilisée, invisibilisée dans l'histoire, les sciences, la littérature, la politique. Bon, il y aura probablement d'autres champs. Hein.
Et là, tu vas remonter très très loin.
Aujourd'hui, au menu, donc, on parlera de la première des premières. On remonte loin. Hein. Donc, alors attention, hein, dans première, j'entends dans un contexte christiano-centré.
Et puis alors, pas christiano-centré, j'entends centré dans un contexte chrétien, hein, pas de Cristiano, c'est de Jésus-Christ, hein, pas de Cristiano Ronaldo. Ronaldo. Et là, on est en terre de foot, je sentais qu'il y en avait plein qui étaient tout. Alors,
voilà. C'est trop bien.
Mais non, 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 excusez-moi. On est bien donc dans un contexte de des chrétiens. Voilà, on va sur le contexte chrétien. Et puis après, un peu plus tard, judéo-chrétien, hein, parce que du coup, on va parler d'une meuf qui concerne aussi bien les juifs que les chrétiens, vous allez voir. Donc la première des premières, donc. Bah, vous allez me dire, on va arrêter le suspense, on pourrait aller parler de Ève. Ah, Ève. Qui aurait marqué du sceau de la tentation notre destin à toutes. Hein, la subversive Ève, qui, par un heureux esprit de découverte et d'ouverture au monde, a refusé d'obéir à Dieu le Père. Fallait quand même le faire, badass quand même, hein, le truc. Et elle a secoué un peu ce benet là d'Adam en lui faisant croquer dans le fruit de l'arbre de la connaissance. Parce que quand même, c'était l'arbre de la connaissance, c'est pas juste une pomme. On nous dit une pomme. Non, l'arbre de la connaissance. Heureusement qu'elle a croqué qu'elle lui a fait croquer dans cette pomme. Enfin, dans ce fruit de la connaissance. Vous m'avez suivi, hein. Donc au moins, ça l'a obligé à pas rester l'idiot utile, hein, et obéissant dans lequel l'autorité paternelle le voulait. Elle était quand même maligne et hyper ingénieuse, parce que du coup, c'est pas elle qui bouffe la pomme, elle le fait bouffer à l'autre, hein, parce que comme ça, hein, d'une, ça le rend moins con, hein, quand même. Et de deux, elle plonge pas tout seule, quand même. Hein. On partait bien, nous, les femmes, on partait super bien, contrairement à ce qu'on essaye de nous dire, hein, depuis 2000 ans. Et ben donc, on pourrait donc faire toute la chronique sur Ève, sauf que vous me direz, bah, pourquoi parler d'invisibilité pour une femme dont la réputation qu'on lui a collée nous pourrit encore la vie, là, nous, les millions, toutes ces millions de descendantes. Elle est quand même pas trop invisible, Ève, on est d'accord, hein ?
Ouais.
Et ben c'est parce que la chronique badass sur la première des premières ne va pas se faire sur Ève. Et ben non, parce que contrairement à la transmission religieuse et populaire et patriarcale, Ève n'était pas la première. Ah bon ? Mais elle a contribué malgré elle à invisibiliser la première femme d'Adam, Lilith. Et ouais, celle-là, nettement moins connue, hein. Parce qu'au pays du divorce interdit, de la sexualité hors mariage et procréation interdite, eh ben Dieu le Père, il ne s'est pas gêné quand même. Il s'est débarrassé de cette première femme. Et le clergé, les autres chefs religieux des millénaires et des siècles suivants, ils en ont fait de même en épurant un peu les textes. Hein. Parce qu'il faut le savoir, la religion ou les règles des religions chrétiennes et juives, elles ne sont pas écrites par Dieu lui-même, mais elles sont choisies par une multitude de mecs là, dans les siècles suivants, qui se réunissent et qui étudient les textes et puis qui en éliminent quand ça leur plaît pas trop, hein, lors de conciles, on appelle ça des conciles. Et là, les gars, donc, ils se rencontrent entre eux, ils décident entre eux de quel texte ils vont garder, et puis, bizarrement, la majorité des textes où des femmes ont un rôle majeur, eh ben, ils disparaissent. C'est quand même un hasard, non ? Hasard ou complot patriarcal ? Je vois ton air là, Marin, je vous le demande. Bon. En tout cas, ça, l'organisation des religions, c'est une autre histoire. Mais alors, vous allez me demander, mais pourquoi ? Pourquoi Lilith se fait virer ?
Mais voilà. Pourquoi ?
Voilà, merci. Pourquoi elle se fait virer, Lilith ? Qu'est-ce qu'elle a bien pu faire de pire que Ève, franchement, qui a condamné l'humanité à la perte du paradis ? Hein ? Voilà. Et ben Lilith, la première version de la femme, qui a été créée du même matériel, matériau d'Adam, sur la base de réciprocité, hein, d'égalité. Parce qu'il faut se rappeler qu'Adam est tiré du limon de la terre, comme façonné dans l'argile et conçu pour être à la fois mâle et femelle dans une conception un peu asexuelle et androgyne de l'humain. J'en entends déjà qui sont en train de gueuler. Et qui n'aurait pas eu besoin de sexualité. Et puis, bon, Dieu, quand même, il se rend compte que la solitude, c'est pas terrible, hein, pour l'homme. Donc, il crée un deuxième individu, mais toujours tiré du même limon de la terre, Lilith. Voilà, sur un rapport de réciprocité. Mais là, ouais, non, rien ne se passe comme prévu, puisque la Lilith, c'est donc un peu Adam, quoi. Enfin, je veux dire, elle est pareille, donc elle est comme Adam. Et donc, elle a décidé de faire un peu ce qu'elle veut, voilà, un peu comme Adam. Pas très docile, la meuf, direct. Et surtout, elle ne voit pas du tout pourquoi elle se soumettrait à Adam en quoi que ce soit. Normal, elle est légale. Et notamment pour ce qui est du sexe. Et oui, parce que l'arrivée de Lilith, donc cesse, hein, cette idée d'asexualité dans l'humanité. Il y a une question de sexe en réciprocité. Mais là, la Lilith, elle en a un ras-le-bol, ras-la-casquette, et je vais même oser un ras-la-nénette du missionnaire et du peu de fantaisie d'Adam. Elle voudrait le chevaucher. Elle veut lui faire l'amour dessus. Et ouais, c'est son kiff, hein, on fait ce qu'on veut et tout. Elle, c'est son kiff. Et là, Adam, voilà, il se braque, il se plaint. Il avait l'air pénible, hein, le Adam, il faut quand même bien le reconnaître. Et là, Dieu le Père. Donc, alors, ils se fassent, non, tous les deux, d'abord, ils se fâchent, ils se prennent la tête et tout. Et là, elle se casse. Hein, elle se dit, ouais, c'est bon, il a saoulé l'autre. Et elle rencontre un autre bonhomme. Eh ben ouais, plus fun le mec. Et là, là, Dieu le Père, ça lui plaît pas des masses, il faut bien l'avouer. Il se fâche, il la poursuit et lui ordonne de revenir au paradis et de se soumettre à Adam, parce qu'il s'est quand même pas fait chier à faire tout ça pour rien quand même, hein, le gars. On comprend un petit peu. Eh ben, elle, qu'est-ce qu'elle fait, hein? Quand son créateur lui tombe dessus et la menace, elle rentre dans le rang, hein? Elle retourne se la couler douce, à rien foutre que cueillir des fruits au paradis? Eh ben non, ben non. La meuf, elle refuse et elle reste là où elle est, à s'éclater. Vlan. Paf, alors là, le Dieu le Père, là, il s'en remet pas. Et il lui colle une malédiction de derrière les fagots. Hein. Bim, Lilith, elle est vouée à la base à être fertile, à engendrer l'humanité. Et là, elle se retrouve à voir mourir ses enfants chaque jour. Et dans certains textes même, hein, plus précisément, à voir mourir 100 de ses fils chaque jour. Et bah, quand bien même, elle choisit la liberté. Et inspirante, non, la Lilith. Hein, Lilith, ouais, qu'on retrouve dans la tradition juive, puisque dans la tradition chrétienne, on a bien vu, on l'a effacé des tablettes. Hein. Et alors là, de cette malédiction qu'elle subit, hein, découlent donc tous les mythes populaires sur Lilith, la démone, puisqu'elle est beaucoup plus connue comme démone plutôt que première femme de l'humanité. Hein. Et donc, bon, parce qu'évidemment, il faut bien imaginer, hein, qu'une meuf qui préfère la liberté à la maternité et les gars qui ont suivi l'histoire, eux, ils ont eu du mal à encaisser. Il hein, faut quand même imaginer. Du coup, la figure de Lilith se transforme et se retrouve dans le folklore populaire sous différentes formes plus obscures. Que la première femme de l'humanité, hein, plutôt obscure. Hein. Qu'est-ce que t'en penses, Florian?
Oui,
sur le côté démon là, de Lilith.
Ben, en fait, on retrouve même des textes qui sont bien antérieurs à juste 2000 ans, où en fait, il y avait déjà des... Voilà, si on remonte dans l'histoire, il y avait déjà d'autres femmes avec des noms qui se rapprochent. Et au début, c'était des forces plutôt naturelles qui étaient autour des tempêtes, des vents, des ouragans, etc. Et de ces forces qui étaient juste des phénomènes naturels, on en a transformé en des démons. Mais par contre, l'histoire que tu donnes où... ce comté démoniaque-là, elle est repris en nombre par différentes croyances. C'était une envoyée de même pas dans un truc, c'est la terre-mère qui l'envoie pour récupérer des semences et créer plein de petits démons qui allaient parcourir la terre. Donc oui, il y a ce côté noir et on retrouve même Lilith pour celles et ceux qui s'y connaissent en astrologie parce que c'est l'autre nom de la lune noire. Et la lune noire, c'est l'opposé donc, de la lune quand on fait les fameuses cartes d'astrologie et qui au début n'était pas très au niveau des interprétations, qui était tout ce qu'on pouvait perdre, tout ce qu'on avait peur, etc. Donc ça a vraiment un côté négatif dans toutes les histoires qu'on peut retrouver.
Et puis c'est vrai que le type qu'elle va rejoindre, qui est plus fun que Adam, vu comme un espèce de suppôt de Satan, effectivement. Dodge this.
Vas-y Sarah, tu peux le faire.
Sacré Lilith.
Exactement, de retour sur le gang des hystéries, donc avec cette petite rediffusion de Lilith, donc qui colle totalement au sujet de la femme qu'on veut évincer et qui se venge et fait sa vie comme elle le souhaite. Et par rapport à ça, Olivia, tu nous disais que tu étais en train de lire un livre en lien avec la religion.
Ouais, dit comme ça, c'est un peu.
Bah, c'est vrai.
Et bim, oui. Ça y est, on change de sujet.
Bah, on change pas de sujet, on est dans la religion avec Lilith, on reste dans la religion avec le livre que tu es en train de lire.
Absolument. Alors, c'est un livre qui s'appelle L'Évangile selon Marie. C'est un livre de Nicoleta Ezinencu, qui est une autrice de théâtre moldave. Et qui est donc ce livre est paru aux éditions de l'Arche dans leur collection des écrits pour la parole. Donc ce sont cette collection, sa particularité, c'est que ce sont des textes qui sont faits pour être dits. Voilà. Donc ce que je vais faire, parce que là je l'ai pas sous les yeux, je vais en fait vite fait, je vais lire quelques lignes de sur le site des éditions. Mais d'abord, je voudrais dire que c'est une sorte de relecture des textes bibliques. Au féminin. Alors, dit comme ça, ça fait un peu... Enfin, je sais pas, ça rend pas hommage à ce que c'est en vrai. Mais les premières lignes, ça dit « Au commencement était le verbe, et l'homme accapara le verbe, et l'homme dit à la femme de se taire. » Voilà. Bon, bah, comme ça,
ça... Ça met les choses au clair. Hein.
Ça annonce la couleur. Et donc, ce livre, en fait, dans ce livre, il y a trois textes. Il y a l'Évangile selon Marie, l'Apocalypse selon Lilith, la bah, revoilà. Tiens. Et l'Arche de Noréa. Donc ces trois textes célèbrent la parole de la femme libérée des violences subies au sein des sociétés patriarcales. Là, je lis le petit résumé. Une nouvelle Bible s'écrit au travers de trois dissidentes. Marie-Madeleine, la fameuse. Lilith, la revoilà. Et Noréa. Ouais, Noréa, par contre, j'ai un petit doute. Mais bon. Animée d'un souffle poétique libérateur, cette trilogie mêle souvenirs d'enfance, détournement de prières traditionnelles et récits de femmes de différentes générations, classes et cultures. Et je dois dire que les détournements de prières traditionnelles, c'est vraiment des textes que tu as envie de lire avant de partir faire quelque chose de très difficile. Genre, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps d'avoir un rendez-vous assez stressant. Eh ben, j'ai pris un chapitre, j'ai ouvert ce livre, et j'ai lu un texte comme ça pour moi, à voix haute dans mon salon. Et c'est, en fait, ça m'a donné une énergie de ouf. C'était trop bien. Et c'est dommage parce que je ne l'ai pas là. J'y ai pensé juste en arrivant tout à l'heure à ce livre. Et donc, elle fait parler... je ne sais pas si elle fait parler Lilith, mais en tout cas, elle est une figure centrale du livre.
C'est une des histoires, sur les trois histoires, c'est quand même une des histoires du bouquin.
Voilà, c'est ça. Et à travers la figure de Lilith, elle parle évidemment énormément d'émancipation. Et donc, c'est vraiment un livre coup de poing, quoi. C'est hyper fort et très, très poétique et très, très galvanisant, quoi. Très, vraiment enthousiasmant.
Ça donne envie.
Ouais.
Oui.
Ouais.
En tout cas, Lilith, sacrée femme, hein, parce que je leur dis... Elle est impressionnante, elle a quand même eu plus d'une centaine de bébés qui s'est fait tuer.
Tous les jours.
Du coup, voilà. Et elle a choisi son mari, son amant. Et du coup, vas-y, autonome, génial.
C'est surtout malgré les interdictions de Dieu le Père qu'elle s'est quand même dit « Non, mais toi, tu vas me lâcher les basques, je fais ce que je veux. » Quoi.
Mmh. Bah, c'est ça, c'est ça. Et en fait, en écoutant la chronique de Lily, je me suis souvenue que Lilith, elle est très, très, très présente aussi dans tout ce qui est sorcellerie. Sorcellerie, ouais. Au terme de la Wicca, c'est-à-dire, ouais. Voilà.
J'en parle un peu. Alors, j'ai parlé de l'astrologie, mais c'est dérivé de, oui. Effectivement de tout ce qui est sorcellerie.
Avec la lune noire, ouais. Ouais, comme tu disais.
Bah, pour ma part, je crois que j'ai découvert Lilith, je crois, à travers Buffy contre les vampires ou quelque chose comme ça.
Ah, donc, bah c'est fort possible.
Oui,
ah bah
ouais. Ce terme-là est beaucoup repris. Oui. Et le terme de lune noire, forcément, ça fait penser à un esprit malfaisant. Alors, on ne sait pas trop l'origine, mais ça fait penser vraiment à quelque chose de maléfique.
True Blood, je crois. Oui, dans True Blood.
Oui, il y a un personnage dans True Blood, effectivement, qui s'appelle Lilith aussi.
Et, en fait, ça fait vraiment sens parce qu'on est vraiment dans la figure de la sorcière en termes de femme libre, émancipée, qui soigne, enfin voilà, qui vient, qui n'a pas besoin d'être mère, qui choisit d'être mère ou non, qui choisit d'être épouse ou non.
Mais forcément, elle incarne le mal, quoi.
Mais c'est ça, et j'allais dire qui n'est pas sous les ordres de l'homme avec un grand H pour le coup, et qui se fait brûler parce que elle veut être une sorcière et qu'elle ne suit pas les règles.
C'est fou toutes ces représentations quand même. Hein.
Mais surtout qui perdurent. On constate que même dans nos générations, quand on a des séries, des mangas, des personnages qui reviennent et qui portent le nom parce que ça fait référence à ce qui a été dit il y a je sais pas combien de centaines ou de milliers d'années auparavant. Donc c'est quand même un schéma qui se répète et on a les personnages qui reviennent. Alors avec des bons ou des mauvais côtés, tout dépend de le personnage qui va apparaître. Mais c'est vrai que certains prénoms ont la vie dure.
Ouais. On mériterait d'avoir plus de filles qui s'appellent Lilith, justement.
Mais oui.
Ouais, effectivement.
Merci Lily, en tout cas pour cette chronique, qui est vraiment toujours aussi drôle et géniale.
On espère la retrouver très bientôt pour une prochaine chronique.
Et merci à toi, Olivia. Franchement, j'espère qu'on te retrouvera par la suite, hein, parce que c'était top.
Merci, j'ai passé un super moment. C'est vraiment génial. Merci beaucoup.
Bah, c'est cool.
Que d'amour, que de bonheur.
Oui, on est bien en gang des hystéries.
Alors, on espère peut-être que pour les prochaines émissions à venir, on aura un sujet sur la monoparentalité.
Oui, on est en débat. Alors, c'est un des... Parce qu'à chaque fois qu'on vous propose un sujet, vous êtes sûr que le mois prochain, on vous en propose un différent. Mais effectivement, on a des sujets au sein du planning qui reviennent, surtout la monoparentalité, parce qu'on s'est rendu compte qu'avec les pandémies, on a quand même des familles monoparentales où le chef de famille est une femme, où il y a des gros problèmes par exemple de précarité. Et
là aussi, elles sont invisibilisées à cause du contexte sanitaire, du contexte politique, voilà.
Et trouver un boulot en ce moment, c'est pas évident non plus. Gérer les gamins entre, il y a école, il y a pas école, il y a un tel qui a école le matin mais pas l'après-midi. Enfin, c'est, on comprend au bout d'un moment, c'est galère, la fameuse charge mentale, n'est-ce pas, qu'on doit.
Autre émission à prévoir.
Entre autres, mais effectivement, ça fait partie des sujets. Et n'hésitez pas à. On n'a pas de boîte mail du gang.
On doit peut-être en créer une.
Bah si, on l'a.
Peut-être.
On l'a. Il faut juste que je vous le mettrai en lien sur le micro rebelle. Mais si vous avez des idées de thèmes, c'est vrai qu'on ne demande jamais à nos auditeurs-trices que s'ils ont des idées, qu'un sujet dont vous voulez qu'on parle, qu'on développe, qu'on débatte. Ou que si vous avez une idée pour une chronique badass d'une personne dont on n'aurait pas parlé aussi également et que vous voulez qu'on en fasse le portrait parce que c'est une femme forte et qui, comme d'hab, a été invisibilisée par les hommes avec un grand H, il n'y a pas de souci. Nous, on est tout open à recevoir des
suggestions.
Merci. Et c'est tout pour aujourd'hui.
Eh ben, je crois que c'est tout. On se retrouve du coup le mois prochain. À très vite. Et puis, bonne soirée.
Le gang des histoires.